Histoire d'en savoir plus, Radio Grand Ciel, Alain Roumestan, pour des infos clés en main, mais trop souvent oubliées dans les médias, aujourd'hui, la Birmanie et les Rohingyas, la minorité musulmane du pays. Les Rohingyas qui ont quitté la Birmanie pour l'État musulman du Bangladesh, tout le monde en parle depuis quelques semaines. Le pape François se rend en Birmanie, où il est reçu par Aung San Suu Kyi, la conseillère spéciale de l'État birman, et où il a rencontré le chef de l'armée. Omar Sy, le comédien, Jérôme Barr, créateur de start-up et héros de Snapchat, lance depuis le Bangladesh un appel à l'aide internationale avec quelques youtubeurs et disques jockeys.
Bonjour à tous, je suis au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ils sont près d'un million, ça fait trois mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays, chassés de la Birmanie. La chose la plus importante pour aujourd'hui, c'est de retrouver de la dignité, la liberté et un pays, la sécurité. Ça, on ne peut pas leur apporter. Mais je suis venu avec la Lord Army, on a discuté avec les familles. Ils ont besoin de première nécessité. Il y a certains qui ont besoin de lumière, certains qui ont besoin de chaussures, de médicaments, un tas de petites choses comme ça. Et ça, on peut le faire. La Lord Army a une idée extraordinaire, c'est de faire un live stream. Pendant 48 heures, on va solliciter le monde entier, toutes les enseignes possibles qui ont envie de faire quelque chose pour eux. On va le faire. Soyez avec nous. Taguez, envoyez, faites un maximum de bruit pendant cette nuit. Demain, 7h du matin, un live stream commence. On veut tout le monde avec nous. S'il vous plaît, soyez avec nous. Je n'ai pas l'habitude de vous solliciter pour ce genre de choses, mais je suis venu, j'ai vu, je vous montre. Soyez avec nous. On a besoin du monde entier. Merci à tous.
Depuis fin août, 600 000 Rohingyas ont quitté leur village de l'État Rakhine, ou Arakan, dans l'ouest de la Birmanie, à la suite d'une campagne de répression de l'armée. Pour l'ONU, c'est une véritable épuration ethnique. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation dans cette Birmanie bouddhiste de 53 millions d'habitants, presque aussi peuplée que la France? Eh bien, Histoire d'en savoir plus va essayer de répondre à cette question d'actualité.
RGC.
Actuellement, au musée Guimet à Paris, une exposition dévoile le regard amoureux que les photographes britanniques ont jeté au XIXe siècle sur la Birmanie, avec ses princesses, ses nobles dames, ses myriades de populations, les Chan, les Karen, les Kachin. Joseph Kessel lui-même, le grand écrivain gaulliste, vantait les pagodes qui dégageaient des brumes leurs étincelantes aiguilles d'or. C'était le temps de la colonisation anglaise qui a laissé de nombreuses traces dans le pays jusqu'à nos jours. Après l'indépendance, obtenue en 1948, et la sortie du Commonwealth anglais, une démocratie parlementaire s'installe jusqu'au coup d'État militaire de 1962. Pendant plus de 50 ans, la Birmanie va connaître des juntes militaires qui ont débaptisé le pays en Myanmar en 1989. Dans les pays occidentaux, le personnage emblématique de la Birmanie dans ces 30 dernières années, c'est la prisonnière du régime, Aung San Suu Kyi, assignée à résidence au 54 avenue de l'université à Rangoon, la première capitale de la Birmanie. Elle sera ainsi détenue de nombreuses années, de 1990, date de la victoire confisquée de son parti politique aux élections législatives, à 2010, date de sa libération définitive. En 1991, elle reçoit le prix Nobel de la paix et, on se rappelle, les hommes politiques qui essaient de lui rendre visite quand les juntes au pouvoir le permettent. Le film « The Lady » de Luc Besson raconte cette vie de l'héroïne dissidente la plus connue d'Asie, avec son courage indomptable, la mort de son mari en 1999 d'un cancer et ses deux enfants réfugiés en Angleterre.
Allô ?
On a emmené votre maman à l'hôpital central ce matin. Je pense que ce serait bien si vous pouviez venir.
Ma mère vient d'avoir une attaque.
Tu reviens dans combien de temps ?
Une semaine. Peut-être deux.
Ce matin, l'armée a ouvert le feu sur les étudiants près de l'hôpital central, faisant de nombreuses victimes.
Madame, nous sommes convaincus que vous seule avez la capacité de faire de la Birmanie un État démocratique. Votre père s'est battu pour obtenir l'indépendance de la Birmanie. L'occasion se présente de finir son travail.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis. Et ensemble, nous marcherons vers une destinée meilleure.
Mettez.
ajouter de la pression sur cette femme.
Courage, Sou.
Courage, garde le moral.
En 2015, elle obtient à nouveau une majorité forte aux législatives et depuis, la Birmanie se réadapte à un temps démocratique. Le pays est pauvre, l'agriculture majoritaire, et parmi les pays d'Asie du Sud-Est, c'est le taux de croissance le plus bas. Mais le potentiel du pays est grand, avec ses richesses naturelles, le pétrole, le gaz, sa position stratégique en Asie entre l'Inde et la Chine, et le tourisme qui prend de l'ampleur depuis les changements politiques et apporte ses devises.
RGC.
Donc, dans ce Myanmar renaissant qui s'ouvre peu à peu au reste du monde, le Parlement, élu démocratiquement, débat de plusieurs projets de loi inspirés par une frange importante du bouddhisme birman. Parmi les changements, la diminution des mariages interreligieux et le contrôle des naissances des minorités. Plongé dans une atmosphère fiévreuse, le Parlement birman débat de l'appartenance religieuse et du rôle de celle-ci dans l'État. Un sujet qui prend de l'ampleur depuis quelques années. La première réunion du Parlement sur la diversité ethnique date de janvier 2011. Le Parti pour la solidarité et le développement de l'Union, majoritaire, et la Ligue nationale pour la démocratie, LND, de Aung San Suu Kyi, ont souhaité que le Parlement soit un lieu de débat public sur les questions religieuses qui agitent l'opinion. Dès 2014, la presse occidentale s'est émue des graves tensions religieuses touchant les Rohingyas, une minorité musulmane. En février 2014, 40 personnes du village du Shiharyan, dans l'état d'Arakan, nommé Rakhine par les autorités birmanes, ont été massacrées, tandis qu'en juin 2015, des centaines d'exilés Rohingyas sont secourus, tant bien que mal, sur les côtes d'Indonésie et de Malaisie. Au Myanmar, les bouddhistes de toutes obédiences représentent les deux tiers de la population, le dernier tiers incluant les minorités ethniques. Le sentiment nationaliste et la diversité religieuse avaient été en quelque sorte mis entre parenthèses pendant la junte militaire, qui tentait d'imposer le sécularisme, ce qui n'empêchera pas la création d'un mouvement politico-religieux radical et bouddhiste, qui a vu le jour depuis la fin de la censure en 2012. Depuis mars 2015, à l'Assemblée régionale de Rangoon, trône une grande statue représentant la mère patrie, tout droit sortie de l'imagerie bouddhiste.
RGC.
René Aigretteau, politologue spécialiste de l'Asie du Sud-Est, montre combien les violences actuelles rappellent celles d'hier, dans les années 1950, lorsque les mosquées étaient brûlées à Mandalay, l'ancienne capitale royale au nord de Rangoon. Et il souligne la liberté de culte octroyée aux chrétiens et aux animistes dans la constitution de 1947, avec une place spéciale pour le bouddhisme majoritaire qui n'était pourtant pas une religion d'État. Mais les temps ont changé. Avec le développement des réseaux sociaux, dont Facebook, qui explose, de nombreuses rumeurs sont propagées, faisant monter les tensions et les violences. Une véritable mobilisation s'effectue ainsi à travers le mouvement bouddhiste, ultranationaliste et anti-musulman, le Mabata, ou Comité pour la protection de la race et de la religion. Estimant que la société birmane est menacée de l'extérieur, ce mouvement met en avant la nécessité de moraliser la société, dont une part a trouvé odieuse la représentation d'un Bouddha avec des écouteurs dans les oreilles. René Aigretteau décrit ainsi des bonzes charismatiques capables d'organiser des séminaires, de discourir en public, de lancer des pétitions, Des religieux dont le message est, d'après le chercheur, en totale cohérence avec les luttes identitaires et le Stop Insulting Buddhism, arrêter d'insulter le bouddhisme. Selon Human Rights Watch, des membres du Mabata ont publiquement appelé à protéger les femmes bouddhistes des musulmans. En juillet 2013, le président Thein Sein avait recueilli plusieurs millions de signatures le pressant d'agir. En mars 2014, il a demandé à une commission de se pencher sur la polygamie et les mariages interreligieux. Quatre projets de loi sont donc débattus au complexe parlementaire de la nouvelle capitale, Naypyidaw. Au programme, les conversions religieuses, la polygamie, l'adultère, le contrôle démographique de certaines populations et enfin les mariages interreligieux.
RGC.
La loi spéciale de mariage des femmes bouddhistes veut ainsi permettre le droit au divorce, les musulmans wahhabites étant habilement visés s'ils venaient à épouser des femmes bouddhistes. La loi de conversion religieuse donnera naissance à un bureau des conversions, émanation du ministère de l'Intérieur et dirigé par l'armée. La loi sur la monogamie luttera contre la polygamie et l'adultère à travers un code pénal romanié. Et enfin, la loi sur le contrôle de la santé de la population, premier texte adopté par le Parlement, promulgué par le président, demande aux autorités locales des 14 gouvernements régionaux de réguler les naissances sur les zones au préalable identifiées, parmi lesquelles, naturellement, l'État musulman d'Arakan, où vivent les Rohingyas. En 2005, la junte militaire avait édicté un décret limitant la procréation à 2 enfants par femme dans la communauté musulmane. Les mesures à prendre ne sont pas toutes arrêtées, mais comprennent entre autres les aides sociales d'État à fournir à certaines catégories de la population, en tenant compte notamment de recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Aucun parti n'a rejeté en bloc la discussion sur les 4 projets de loi. Achin Virattu, à qui le magazine américain Time avait réservé sa couverture avec le titre « Le visage de la terreur bouddhiste » et les bouddhistes Rakhine, sont à l'avant-garde du mouvement anti-Rohingya. Leurs slogans les plus diffusés, « Les Rohingyas ne sont pas une ethnie birmane, pas de Rohingyas dans le pays Rakhine ». Certes, il y a des députés à l'Assemblée qui sont embarrassés, un tiers d'entre eux s'est abstenu lors des débats. Certaines élites intellectuelles birmanes sont mal à l'aise, mais les oppositions chrétiennes sont déterminées. Des associations de la société civile ont dénoncé ces lois et veulent les contester devant les tribunaux quand elles seront votées.
RGC.
Malgré les avis largement défavorables du membre de son parti, certains observateurs estiment qu'Aung San Suu Kyi s'astreint à se plier au choix de la majorité pour préserver la cohésion de son pays et épargner à ce pays de nouvelles divisions. Le prix Nobel de la paix, qui est aussi prix Sakharov, s'affirme mobilisé en faveur des droits de l'homme et des droits de la femme birmane, menacé par le sectarisme et le poids trop lourd de pratiques d'un autre temps. Et elle s'engage avec force devant le pape François à protéger les droits et à promouvoir la tolérance pour tous. « Nous allons avancer, dit-elle, aussi vite que possible avec l'aide positive de tous nos amis. Notre gouvernement a pour objectif de faire ressortir la beauté de notre diversité et à la renforcer en protégeant les droits, en encourageant la tolérance et en garantissant la sécurité pour tous. Elle souhaite que l'on parle des musulmans de l'État Rakhine, dans la terminologie officielle, et elle veut éviter l'appellation « bangladais », c'est-à-dire « habitants du Bangladesh », en référence à l'arrivée des Rohingyas sur le sol birman. Et elle ne veut pas, non plus, de l'appellation « Rohingyas » employée par les musulmans pour se désigner elle-même. La dirigeante birmane vient d'accepter toutes les demandes formulées par les Européens, l'arrêt des violences contre les Rohingyas, la mise en place d'une mission des États-Unis pour enquêter sur les massacres évoqués depuis plusieurs mois, l'ouverture d'un processus de rapatriement des réfugiés, l'établissement d'un accès humanitaire pour eux. En écho à cet engagement fort de Aung San Suu Kyi, Mathieu Ricard, proche conseiller du Dalai Lama, vient de répéter avec force que le bouddhisme n'admet en aucune façon la violence. « On ne peut qu'être atterré par les violences perpétrées par l'armée birmane, dit-il, à l'encontre des Rohingyas avec la bénédiction du clergé. L'armée nie les faits, mais quand 600 000 personnes fuient leurs habitations dans des conditions épouvantables, Il est clair qu'elles sont terrifiées par ce qu'elles ont vécu. Ce nettoyage ethnique est d'autant plus choquant qu'il se passe dans un pays qui se dit bouddhiste et qui devrait donc pratiquer la non-violence. Le Dalaï Lama, ajoute-t-il, l'a maintes fois répété. Dans le bouddhisme, il n'y a aucune justification à la violence, dans quelque but que ce soit. Dans de telles circonstances, le Bouddha serait certainement venu à l'aide de ces pauvres musulmans. Nous allons nous quitter maintenant avec chanson de U2, Walk On, le morceau composé en l'honneur de Aung San Suu Kyi.
That has to be believed.